Donc, il reste 2 semaines de campagne dans les élections municipales un peu partout au Québec, dont à Montréal. Ça va se passer le 7 novembre. Hier, on a assisté à un autre débat entre Valérie Plante et Denis Coderre. À LCN, M. Holness était là aussi. On voulait revenir là-dessus avec la mairesse et son principal rival, M. Coderre. Seule Mme Plante a accepté l'invitation. Elle est au bout du fil. Mme Plante, bonjour.
Bonjour, M. Lagacé.
Donc, d'abord, aujourd'hui, vous avez fait une réunion partisane et vous avez dit à vos troupes que la victoire est à notre portée. C'est pas un petit peu arrogant de dire ça?
Ah non, pas du tout. Je pense qu'au contraire, quand on sait, comment dire, faut pas tout baser sur les chiffres puis les sondages, mais ça va bien. Il y a encore du travail à faire, mais non, au contraire, je pense que c'est vraiment une belle façon de dire. Quand on va frapper à des portes, quand on rencontre les gens, quand on parle de notre vision, des projets, ça marche. Alors, il faut continuer à le faire. Chaque porte compte, chaque citoyen compte. Alors, on a 2 semaines pour continuer à jaser avec les gens.
Mais quand même, vous devez être un peu surprise parce que au début de la campagne, les premiers sondages donnaient une grosse avance à Denis Coderre. Ça s'est beaucoup rétréci. Est-ce que vous vous pincez avant d'aller vous coucher?
Non, pas du tout. Mais vous savez, j'ai un peu un casting là, de underdog. On dirait que ça me suit dans ma carrière politique. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout la tendance. Vous l'avez dit, mon opposant qui a perdu des plumes, beaucoup, beaucoup, beaucoup de points, là, presque une vingtaine de points en quelques mois. Puis nous, ben, une progression, constante. Et pour moi, c'est très, très encourageant. Puis c'est comme ça, une campagne. Hein. Faut pas lâcher, faut tout donner. Puis faire une campagne positive, c'est vraiment ce que j'avais en tête. Puis les Montréalais adhèrent à cette vision positive-là aussi. Là.
OK. Hier, Projet Montréal a annoncé un projet, là, le projet de la boîte à bébé. Puis je vais résumer ça comme ça. Là. C'est de donner à chaque nouvelle mère qui en ferait la demande sur le territoire une sorte de boîte de départ, là, de nécessaire à bébé, là, des couches, etc. Je sais que ça existe en Finlande. Ma question pour vous, c'est en quoi c'est la job d'une ville de faire ça?
Donc oui, la boîte Bienvenue Bébé, c'est vrai qu'on s'est inspiré par d'autres pays à travers le monde. Mais écoutez, ce qu'on voulait, nous, c'est encourager les familles à avoir des bébés puis surtout de les avoir à Montréal. Puis vraiment, susciter le sentiment de fierté. Et vous savez, j'aurais pu probablement dire, bon, on va faire une campagne de publicité pour les familles, c'est fabuleux d'habiter à Montréal. On a plutôt choisi d'y aller avec un concept où chaque nouveau parent, à chaque fois qu'il y a un bébé qui arrive dans la famille, une boîte avec des essentiels, des petites douceurs pour les parents. Donc, ça va vraiment dans cet esprit-là.
Madame Plante, ça là, c'est correct. Moi, ça fait longtemps que j'ai entendu parler que la Finlande le fait depuis, je pense que c'est depuis avant la Deuxième Guerre mondiale.
Oui,
c'est très, très vieux.
Exactement.
Là. Mais je comprends ça. Mais il me semble qu'au Québec, là, dans l'organisation des services de santé puis de services sociaux, c'est au provincial à faire ça. En quoi, je vous repose la question, pourquoi c'est à la ville de faire ça?
Bien, moi, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Je vais pas attendre après Québec. Eux, ils donnent déjà le petit guide bleu, là, bien vivre avec mon enfant. Nous, on avait envie d'apporter une saveur montréalaise. Et honnêtement, à voir la réaction des gens un peu partout là, face à notre annonce, les gens sont contents. Je pense que cette idée de pouvoir donner une certaine chance égale, le message que ça envoie, c'est que chaque nouveau petit Montréalais, Montréalaise reçoivent des éléments pour contribuer à leur bien-être. On veut aussi envoyer un message, contrairement à d'autres pays où c'est essentiellement sur les bébés, nous on est aussi sur les parents, donc on parle de billets de métro, des passes pour profiter par exemple d'espace pour la vie. Donc leur donner un peu de répit ou du moins de les encourager parce que des familles, on les a vues à Montréal. Évidemment, c'est pas la boîte à bébé qui va tout régler. Hein. Faut parler d'espace vert, de logement abordable, toutes ces questions-là. Mais c'est un élément de plus, une petite douceur pour leur dire on veut que les familles restent à Montréal.
Vous avez 250 engagements dans votre plateforme, Mme Plante, là, à Projet Montréal. Le déficit de la ville, présentement, il est de combien?
Bien, il est prévu pour les 3 prochaines années, sur 3 ans, à peu près, je vous dirais, à 700 millions. Quand on est arrivé en poste en 2017, là, l'écart entre les revenus et les dépenses était à peu près de 300. Donc, c'est bon an, mal an, hein, qu'il y a toujours comme cet écart entre les revenus et les dépenses. Là, le montant que je vous dis est prévu pour les 3 prochaines années. Puis évidemment, ben, comme à chaque année, on va équilibrer notre budget. C'est-à-dire que soit avec je pense au droit au permis de tous les permis de construction qui se passent dans le centre-ville en ce moment. Il y a un boom incroyable. Mais ça, c'est d'argent qui rentre dans les coffres. on va faire la mise à jour économique prochainement. Donc, il y a toujours cette espèce de moment où on a l'impression que l'écart est immense, mais après ça, les revenus arrivent, les surplus, puis on équilibre tout ça.
Diriez-vous que c'est quand même un des points faibles de votre campagne? M. Coderre vous attaque beaucoup là-dessus, sur le déficit de la ville. Laisse même planer là, un danger de décote là, qui s'est pas, à moins que je me trompe, ça s'est pas concrétisé dans le réel. Là.
Mais absolument.
Écoutez, quand on fait 250 engagements comme ça, puis que la ville est en déficit comme elle l'est, il me semble qu'il y a peut-être quelque chose comme un petit divorce avec le réel, non?
Ben non, dans un, ce qui est assez farfelu, c'est que mon opposant dit qu'on a 250 promesses, mais lui, il est rendu à 248. Fait que je pense qu'on est à peu près dans les mêmes eaux. Mais au final, oui, nous, on se base, on travaille avec des agences de notation qui nous accompagnent, qui font des audits. On leur a fait un plan pour le retour à l'équilibre budgétaire pour 2027. C'est eux qui évaluent. Puis c'est pas juste une agence de notation, c'est trois. Ils nous ont dit que notre cote était excellente, notre plan de match est bon, on fait bien d'investir parce qu'on est dans une période de relance. Alors honnêtement, je veux dire, M. Coderre peut bien dire ce qu'il veut, mais il y a plein d'experts, dont même Gérald Quillon, qui a dit que ce n'est pas vrai. On est en plein contrôle des dépenses.
OK, je veux qu'on parle un peu d'accès au logement, tant pour le locatif que pour l'accès à la propriété. Vous le savez, là, on ne va pas vous faire un dessin. Montréal est de moins en moins abordable pour de plus en plus de gens. Depuis 4 ans, depuis que vous êtes arrivée, Mme Plante, là, la mesure la plus forte que vous avez imposée pour endiguer le fait que Montréal s'en vient hors de prix, là, c'est quoi?
Oui. Bien, c'est d'avoir réussi à faire nos 12 000 logements, plus de 6 000 logements en logement abordable, puis un petit peu moins de 6 000 en logement social. Puis ça, c'est parce qu'on a été innovant. Mais il en demeure pas moins que la mesure qui va donner des petits, parce qu'on l'a adopté l'année dernière, ben c'est le règlement sur une métropole inclusive, là, qu'on appelle le 2020-20. Mais on le met en place.
C'est quoi le 2020-20?
Oui, ben le 2020-20, c'est un règlement qui force maintenant les promoteurs immobiliers à faire 20% de logement social, 20% de logement abordable et sur tous leurs projets, 20% de logements de grande taille hein, pour les familles dans les projets immobiliers. Donc ça, c'est pour assurer de la mixité économique, entre autres, au centre-ville. Parce que pour l'instant, ou jusqu'à maintenant, en laissant aller le marché sans avoir une règle précise comme celle-là, bien, il n'y a pas de logement abordable et social qui se crée dans le centre-ville.
Mais on a vu qu'il y a beaucoup de promoteurs qui peuvent acheter, disons, la partie logement abordable et revendre ces unités-là à fort prix quand même. Là. C'est un peu théorique, le 2020-20.
Non, pas du tout. Puis ce petit problème, ce n'est pas un petit, mais cette problématique-là qu'il y avait des promoteurs ou des gens aisés qui achetaient un logement abordable, après ça, ben, ils gardaient pour eux ou le revendaient un an plus tard. Non seulement on l'a réglé, mais la raison pour laquelle, dans notre règlement, parce que quand on s'en est rendu compte, on a dit ça n'a aucun sens. Mais nous, ce qu'on promet, puis c'est là où pour moi, c'est la différence entre Projet Montréal et l'équipe de Nicodère, c'est que nous, quand on parle de logement abordable, c'est du logement abordable terrain. C'est-à-dire qu'en achetant des terrains, puis après ça, on les loue sur une période d'à peu près 40 ans à des OBNL ou encore des promoteurs privés, on est capable de se garder un levier pour dire c'est pas vrai. Quelqu'un va acheter un logement abordable, puis un an plus tard, il fait un flip. Parce que ça contribue directement à la montée des prix. Alors, la Ville de Montréal s'inspire, entre autres, de la Suède, qui fait ce genre de propositions-là. Moi, ce que je dis, c'est que la Ville doit être partie prenante des solutions pour le logement abordable. Et mon opposant, c'est des réglementations. On laisse le marché se réguler tout seul, mais ça n'a pas marché. Si ça avait marché, on ne serait pas dans la situation actuelle.
OK. Chaque fois que vous êtes à mon micro et qu'on parle de logement, vous et moi, il y a des gens qui m'écrivent pour me dire la mairesse, son immeuble avait un logement. Et elle l'a converti comme étant partie de son immeuble. Elle l'a sorti du marché locatif avant que ce soit interdit. Je vous pose la question, c'est quoi le fond des choses? Qu'est-ce qui s'est passé?
Ah ben oui, avec grand plaisir, parce que c'est vraiment pas la situation. Donc, je suis propriétaire d'un plex avec mon mari, un 5-plex, donc 5 appartements. On a toujours habité au rez-de-chaussée. Et dans les règles de l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie, on a récupéré un 3,5. Alors finalement, il nous reste, on a enlevé un logement du marché, mais dans les règles actuelles, une famille peut, enfin, dans les règles, on peut transformer agrandir sa maison. Et vous savez quoi? Pour moi, ça, c'est important, cette nuance-là, parce que, d'un, on a suivi toutes les règles de l'arrondissement. Et ce qu'il faut trouver, c'est un équilibre entre les gens qui font des rénovations. Si, par exemple, là, j'avais pris mon logement, puis j'avais dit, oui, c'est pour moi, là. Puis que finalement, après ça, le locataire s'en va, puis je le reloue quelques mois plus tard au double du prix. Ça, c'est une rénovation. Moi, ce que j'ai fait, c'est de prendre un logement pour y installer ma famille. Mais ça, c'est une façon pour plein de familles montréalaises de rester à Montréal. Parce que j'ai deux ados, on travaille à la maison, on avait besoin d'espace pour plein de Montréalais. Alors, il faut faire de l'acupuncture quand c'est question d'habitation pour soutenir les locataires, mais aussi pour garder les familles à Montréal.
OK, je veux qu'on revienne sur le débat d'hier. Vous avez eu une passe d'armes avec M. Coderre, là. On va écouter l'extrait là, qui s'est promené un peu partout depuis hier soir.
Mais comme on achète des terrains et comme il y a le 20-20-20, ça nous permet de les obliger à créer du in situ. Oui, c'est vrai.
Malheureusement, c'est pas vrai. Quand vous riez, vous êtes nerveuse. Arrêtez. C'est pas vrai. Arrêtez de rire. C'est trop important, l'habitation.
Parce que pour vous, quand on rit, c'est un problème, M. Coderre?
Non, c'est pas un problème. Le problème, c'est l'administration en place qui a fait en sorte que les gens s'en vont ailleurs.
Est-ce que votre rire dérange le monde, vous pensez? Je sais que ça a été un gros avantage il y a 4 ans, mais c'est-tu rendu un désavantage?
Écoutez, les gens, j'imagine qu'il y a des gens que ça leur plaît, des gens que ça leur plaît pas. Mais entre vous et moi, je trouve ça déplorable qu'un candidat décide d'attaquer un trait de personnalité comme M. Coderre le fait. C'est extrêmement condescendant. Moi, je trouve que ça n'a pas sa place dans un débat.
Mais pour situer les gens, M. Coderre vous a accusé de rire de l'enjeu de l'habitation. Qu'est-ce qui vous a fait rire à ce moment-là?
Oh non, non, en fait, c'est parce que M. Coderre, quand je lui ai demandé, est-ce que pour vous, rire, c'est un problème? Évidemment, il a twisté sa question. Avant, ce qu'il a dit, c'est arrêtez de rire. Quand vous riez, vous êtes nerveuse. Je trouve que c'est extrêmement condescendant. Et à ce moment-là, moi, j'avais ri. Parce que M. Coderre dit de fausses informations. Et de la désinformation, moi, j'ai un problème avec ça, là. Et jusqu'à maintenant, M. Coderre il est confortable avec la vérité à géométrie variable. On va y aller comme ça. Alors, sur le sujet de l'habitation, qui est un sujet qui tient à cœur depuis le début, sur lequel on travaille, M. Coderre dit des faussetés. Et là, j'éclaterai en disant, voyons donc, M. Coderre. Et là, de me dire, par exemple, arrêtez de rire, vous êtes nerveuse, je trouve que c'est absolument, c'est une façon de me déstabiliser. Mais entre vous et moi, est-ce qu'on est rendu là, qu'on commence à attaquer la personne sur sa personnalité ou sa façon d'être ou à quoi elle ressemble, ce qu'elle est? Moi, je suis pas là.
Quand les Kodak s'éteignent comme ça sur un plateau comme le débat de LCN hier, là vous vous croisez, mettons, dans la salle à maquillage quand vous allez vous démaquiller, là, ou dans l'ascenseur, comment ça se passe? Parce que je vous le dis, de l'extérieur, on a l'impression que les deux candidats principaux à la mairie s'aiment pas bien, bien.
Ben écoutez, M. Coderre et moi, on se connaît depuis un bout de temps, mais la vision de M. Coderre, pour moi, c'est sûr que je peux vous dire que sa vision pour Montréal, selon moi, n'est pas la bonne, n'est pas la meilleure, puis que la nôtre, oui, là. Mais au final, moi, quand j'entends des commentaires comme celui de M. Coderre hier, on voit qui est la personne. Le fond de M. Coderre est ressorti, là. De me dire, arrête de rire, la petite, c'est un peu ça qu'il me disait, là. La petite, arrête de rire, là, t'es gossante, là. Moi, j'ai trouvé que c'était chasser le naturel, il reviendra au galop. Et moi, ben, M. Coderre, j'ai toujours connu comme ça. C'est une personne qui peut parfois être, un bully, là, tu sais, comment traduit ça, bully?
Écoutez, je vais vous laisser choisir la réponse, là.
Faire un peu d'intimidation, là, dans ce sens-là, en déstabilisant la personne. Mais moi, je me laisserai pas attaquer. Je ne me laisserai pas définir comme M. Coderre le fait, parce que ça s'adonne que mes dossiers, je les connais. Je suis capable j'ai des idées concrètes, ma vision est claire. Et au final, je pense que c'est ce que M. Coderre n'aime pas. Mais voilà, de s'attaquer à moi personnellement, je trouve qu'il est allé vraiment trop loin.
Parfait. Bien, merci. On va se reparler d'ici la fin de la campagne. Merci, Mme Plante.
Merci, bonne fin de journée. Au revoir.
C'était la chef de projet Montréal, Valérie Plante. Et juste souligner, comme je le fais tout le temps, on a invité Denis Coderre. Denis Coderre ne veut pas venir au micro ici. Si vous écoutez l'émission, vous savez qu'il ne me vante pas souvent, mais c'est quand même l'émission numéro un du retour dans sa ville. Il ne vient pas. Les raisons le regardent de lui. Mais évidemment, quand M. Coderre décline notre invitation, ça ne va pas nous empêcher de parler de politique municipale. Et on ne va pas s'empêcher non plus d'inviter sa principale adversaire. 16-22.